Chapitre 9. Arrivée de l'ingénue à Versailles, sa réception à la cour. L'ingénue débarque en peau de chambre. Note de la rédaction, c'est une voiture de Paris à Versailles, laquelle ressemble à un petit tombereau couvert. Dans la cour des cuisines. Il demande au porteur de chaise à quelle heure on peut voir le roi. Les porteurs lui rient au nez, tout comme avait fait l'amiral anglais. Il les traita de même, il les battit. Ils voulurent le lui rendre et la scène allait être sanglante s'il n'eût passé un garde du corps, gentilhomme breton, qui écarta la canaille. « Monsieur, lui dit le voyageur, vous me paraissez un brave homme. Je suis le neveu de monsieur le prieur de Notre-Dame de la Montagne. J'ai tué des Anglais, je viens parler au roi. Je vous prie de me mener dans sa chambre. » Le garde, ravi de trouver un brave de sa province qui ne paraissait pas au fait des usages de la cour, lui apprit qu'on ne parlait pas ainsi au roi et qu'il fallait être présenté par Monseigneur de Louvois. « Eh bien, menez-moi donc chez ce Monseigneur de Louvois, qui sans doute me conduira chez Sa Majesté. Il est encore plus difficile, répliqua le garde, de parler à Monseigneur de Louvois qu'à Sa Majesté, mais je vais vous conduire chez Monsieur Alexandre, le premier commis de la guerre. Oh, c'est comme si vous parliez au ministre. Ils vont donc chez ce Monsieur Alexandre, premier commis, et ils ne purent être introduits. Il était en affaire avec une dame de la cour, et il y avait ordre de ne laisser entrer personne. « Eh bien, dit le garde, il n'y a rien de perdu. Allons chez le premier commis de Monsieur Alexandre. C'est comme si vous parliez à Monsieur Alexandre lui-même. » Le Huron, tout étonné, le suit. Ils restent ensemble une demi-heure dans une petite antichambre. « Qu'est-ce donc que tout ceci ? Dit l'ingénu. « Est-ce que tout le monde est invisible dans ce pays-ci ? Il est bien plus aisé de se battre en Basse-Bretagne contre des Anglais que de rencontrer à Versailles les gens à qui on a affaire. » Il se désennuya en racontant ses amours à son compatriote. Mais l'heure en sonnant rappela le garde du corps à son poste. Ils se promirent de se revoir le lendemain, et l'ingénu resta encore une autre demi-heure dans l'antichambre en rêvant à Mademoiselle de Saint-Yves et à la difficulté de parler au roi et au premier commis. Enfin, le patron parut. « Monsieur, lui, dit l'ingénu, si j'avais attendu pour repousser les Anglais aussi longtemps que vous m'avez fait attendre mon audience, ils ravageraient actuellement la Basse-Bretagne tout à leur aise. » Ces paroles frappèrent le commis. Il dit enfin au breton, « Que demandez-vous ? Récompense, dit l'autre, voici mes titres. » Et il lui étala tous ses certificats. Le commis lut et lui dit que probablement on lui accorderait la permission d'acheter une lieutenance. « Moi, que je donne de l'argent pour avoir repoussé les Anglais, que je paie le droit de me faire tuer pour vous pendant que vous donnez ici vos audiences tranquillement ? Ah, je crois que vous voulez rire. Je veux une compagnie de cavalerie pour rien. Je veux que le roi fasse sortir Mademoiselle de Saint-Yves du couvent. » Et qu'il me la donne par mariage. Je veux parler au roi en faveur de 50 000 familles que je prétends lui rendre. En un mot, je veux être utile, qu'on m'emploie et qu'on m'avance. Comment vous nommez-vous, monsieur, qui parlez si haut ? Oh, oh, reprit l'ingénu, vous n'avez donc pas lu mes certificats ? C'est donc ainsi qu'on en use ? Je m'appelle Hercule de Kercabon. Je suis baptisé. Je loge au cadran bleu. Et je me plaindrai de vous, roi. » Le commis conclut comme les gens de Saumur, qui n'avaient pas la tête bien saine et n'y fit pas grande attention. Ce même jour, le révérend père Lachaise, confesseur de Louis XIV, avait reçu la lettre de son espion, qui accusait le breton Kercabon de favoriser dans son cœur les Huguenots et de condamner la conduite des jésuites. Monsieur de Louvois, de son côté, avait reçu une lettre de l'interrogant Bailly, qui dépeignait l'ingénu comme un gardement qui voulait brûler les couvents et enlever les filles. L'ingénu, après s'être promené dans les jardins de Versailles, où il s'ennuya, après avoir soupé en huron et en bas breton, s'était couché dans la douce espérance de voir le roi le lendemain, d'obtenir de Mademoiselle de Saint-Yves en mariage, d'avoir au moins une compagnie de cavalerie, et de faire cesser la persécution contre les Huguenots. Il se berçait de ses flatteuses idées quand la maréchaussée entra dans sa chambre. Elle se saisit d'abord de son fusil à deux coups et de son grand sabre. On fit un inventaire de son argent comptant et on le mena dans le château que fit construire le roi Charles V, fils de Jean II, auprès de la rue Saint-Antoine, à la porte des Tournelles. Quel était en chemin l'étonnement de l'ingénu ? Je vous le laisse à penser. Il crut d'abord que c'était un rêve. Il resta dans l'engourdissement, puis tout à coup, transporté d'une fureur qui redoublait ses forces, il prend à la gorge deux de ses conducteurs qui étaient avec lui dans le carrosse, les jette par la portière, se jette après eux et entraîne le troisième qui voulait le retenir. Il tombe de l'effort, on le lie, on le remonte dans la voiture. Voilà donc, disait-il, ce que l'on gagne à chasser les Anglais de la Basse-Bretagne. Que dirais-tu, belle Saint-Yves, si tu me voyais dans cet état ? On arrive enfin au gîte qui lui était destiné. On le porte en silence dans la chambre où il devait être enfermé, comme un mort qu'on porte dans un cimetière. Cette chambre était déjà occupée par un vieux solitaire de Port-Royal nommé Gordon, qui languissait depuis 2 ans. « Tenez !» lui dit le chef des sbires. « Voilà de la compagnie que je vous amène !» Et sur le champ, on referma les énormes verrous de la porte épaisse revêtue de larges barres. Les deux captifs restèrent séparés de l'univers entier.